Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant d'entrer dans l'analyse, une brève observation de deux œuvres picturales me permettra d'amorcer une réflexion sur l'institution matrimoniale dans la France du 18e siècle. En 1761, au salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture, un tableau de Jean-Baptiste Greuze, intitulé « L'accordé de village », attirait la foule. Cette œuvre traite, selon l'historien de l'art Richard Rand, un sujet très neuf au regard de la tradition picturale de l'époque. Au lieu de représenter l'échange des vœux des mariés devant le prêtre, ou encore le thème des noces de village, comme le voulait la tradition, Greuze montre plutôt la signature des documents de mariage, l'octroi de la dot et le transfert du pouvoir entre le père et le gendre qui en résulte. Presque 25 ans après le dévoilement de ce tableau, Jean-Honoré Fragonard mit lui aussi la convention matrimoniale au cœur de l'une de ses œuvres, intitulée « Le contrat ». Il réserva cependant à ce sujet un traitement fort différent de celui privilégié par Greuze. Plutôt que d'insister sur la dimension collective du mariage, Fragonard en donne une vision intimiste. Ce contraste entre les deux œuvres est représentatif de l'ambivalence dans les rapports entre individus et communautés que cristallisait alors le mariage. Tandis que la dimension sentimentale du mariage, de plus en plus valorisée à partir de la seconde moitié du siècle, convoquait l'individu dans sa subjectivité propre, ses dimensions juridiques et économiques n'en faisaient rien de plus qu'une monnaie d'échange entre les familles. À l'instar de ces deux tableaux, plusieurs œuvres littéraires du 18e siècle problématisent les ambiguïtés qui caractérisaient alors l'institution matrimoniale. Ces textes se retrouvent plutôt du côté des autrices que de celui des auteurs, comme l'a souligné Isabelle Tremblay. Si les romanciers s'intéressent surtout aux manifestations de la passion, les romancières font plutôt porter leur attention sur les problèmes liés au mariage, dont elles dénoncent les méfaits sur les femmes. Tel est le cas, par exemple, de Marie-Jeanne Riccoboni, une autrice française dont les romans, souligne Robert Darnton, ont pu avoir à l'époque un lectorat plus large que celui d'aucun autre auteur, y compris Rousseau. De toute la production riccobonienne, ce sont les lettres d'Adélaïde de Dammartin, comtesse de Sancerre, au comte de Nancy, son ami, qui, selon André Demée, traite la question du mariage le plus en profondeur. L'épistolière mise en scène par Riccoboni est une jeune veuve. L'objet principal de ses lettres, l'union matrimoniale. À son correspondant, Adélaïde révèle les raisons de l'échec de son premier mariage et expose ses réticences à convoler en seconde noces. Elle lui avoue aussi sa passion inquiète pour un homme marié, le marquis de Montalais. Après que celui-ci est devenu veuf, Adélaïde relate les tractations conduisant à leur future union. L'épistolière fait aussi part au comte de Nancy des nouvelles de leur cercle d'amis, peuplées de personnages préoccupés de mariage et d'établissement. Après avoir brièvement exposé les paradoxes du contrat de mariage et le statut juridique de la veuve dans la France d'Ancien Régime, je montrerai comment le roman problématise l'usage que font plusieurs personnages féminins de leur liberté, et comment il va jusqu'à remettre en question la définition et l'existence de celle-ci. Dans la 53e missive des lettres d'Adélaïde de Dammartin, l'épistolière cède la plume à son amie Madame de Martigues. Tout en se félicitant d'avoir amené Adélaïde et Monsieur de Montalais à conclure une promesse de mariage, Madame de Martigues se plaint de la manière dont le couple l'a remercié de ses efforts. « Ils m'ont fait signer, par surprise je crois, ce maudit contrat. Allons, le sort en est jeté, j'accompagnerai Madame de Sancerre à l'hôtel. » Depuis le début du roman, Madame de Martigues s'est montrée on ne peut plus réfractaire à l'idée de se remarier, malgré l'amour qu'elle porte à son prétendant. C'est qu'elle a jadis souffert de l'inflexibilité de son mari, qui l'avait, par exemple, obligée à s'installer avec lui en campagne, alors qu'elle aurait préféré demeurer près de la ville et de ses plaisirs. L'intransigeance de Monsieur de Martigues ne peut être attribuée seulement à une particularité de son caractère. Elle est prévue par la loi, comme on peut le lire dans le traité du contrat de mariage de Robert-Joseph Potier. La femme contracte envers son mari l'obligation de le suivre partout où il jugera à propos d'établir sa résidence ou sa demeure. Elle doit lui être soumise, lui obéir dans toutes les choses qui ne sont pas contraires à la loi de Dieu. Il n'apparaît donc pas étonnant que le mépris de Madame de Martigues envers l'institution matrimoniale soit associé à l'acte légal qui définit les obligations et les rôles respectifs des conjoints. Le contrat de mariage n'était pas un contrat comme les autres. bien qu'il fût, à la suite de la réception française du Concile de Trente, dissocié du sacrement du mariage, il présentait deux particularités qui transgressaient des principes contractuels fondamentaux. La nécessité du consentement parental posait un premier problème. Puisque l'autorisation paternelle était une condition essentielle à ce que des mineurs deviennent aptes à conclure ce contrat, le consentement des jeunes gens à marier pouvait n'être qu'un acquiescement à la volonté parentale, au lieu de l'expression d'une décision libre de toute contrainte. L'indissolubilité du contrat de mariage constitue une seconde transgression d'un principe contractuel fondamental. Contrairement aux autres formes de contrat, qui peuvent être dissous lorsqu'ils ne conviennent plus aux parties concernées ou lorsque leurs termes ont été violés, un contrat de mariage qui a été initialement jugé valide par l'État est indissociable. Les partisans du divorce au 18e siècle plaidèrent pour que le contrat de mariage respecte les principes contractuels fondamentaux du libre consentement des parties et de la dissolubilité. Ils n'ont cependant pas relevé les problèmes liés au sort que le contrat de mariage réservait spécifiquement aux femmes. Ceux-ci ont été mis au jour par la suite par la critique féministe de la vision contractuelle du mariage, qui a dénoncé la teneur imposée de ce contrat et le fait qu'il maintienne l'incapacité juridique de la fille ou qu'il réinstaure l'incapacité juridique de la veuve. Sous l'Ancien Régime, les femmes mariées, au même titre que les mineures, avaient en effet le statut juridique de sous-personne, c'est-à-dire qu'elles étaient soumises aux droits de la personne qui les tenait sous son pouvoir. Conséquemment, c'est au mari qu'il revenait d'administrer les finances du ménage, dont les biens, à tout le moins selon la coutume de Paris, tombaient en communauté sous l'effet du contrat de mariage. Plusieurs romans du 18e siècle font de la nécessité du consentement parental aux projets matrimoniaux des protagonistes un des principaux moteurs de leur récit. On peut penser par exemple à Julie ou la Nouvelle Héloïse ou encore aux Mémoires du comte de Comminges de Claudine Guérin de Tencin. Or, en raison de toutes les particularités du contrat de mariage, on pourrait se demander si de telles intrigues n'éclipsent pas une autre question cruciale, celle de savoir si ce contrat deviendrait immédiatement souhaitable pour les protagonistes féminins, s'il était conclu vraiment volontairement, sans qu'y entre aucune contrainte. À une époque où le mariage d'amour est en voie de triompher, comment une femme peut-elle être assurée de ne pas devenir l'artisane de son propre malheur en épousant, de son plein gré, un homme dont elle ne pourra jamais divorcer? Cette question est au cœur des lettres d'Adélaïde de Dammartin, qui met en scène trois jeunes veuves, c'est-à-dire des femmes qui, parce qu'elles sont affranchies de la tutelle de leur mari, peuvent exercer davantage de contrôle sur leur destin que les femmes mariées. En vertu des lois en vigueur dans la France d'Ancien Régime, la veuve était en effet plus riche et plus libre qu'aucune autre femme, rappelle Christian Bié. Elle était une personne juridique à part entière et gérait elle-même sa fortune. Après avoir respecté une période de viduité d'au moins 300 jours ou un an après la mort de son époux, la veuve devenait libre de se remarier. Comme l'explique Christian Bié, ce temps intermédiaire de la liberté pratique et institutionnelle était socialement insupportable. Il fallait le raccourcir autant que faire se pouvait, une fois le deuil accompli. Aussi, la veuve faisait-elle l'objet d'un discours multiforme, lisible tant dans les textes religieux que juridiques et médicaux, qui avait pour finalité de la remettre sous tutelle. Les textes littéraires, quant à eux, se sont emparés de cette période de liberté lors de laquelle la veuve, sorte de bâtard du point de vue du droit, invente des conduites différentes de celles des autres femmes parce qu'elle est libre, souligne Christian Bié. Ruth B. Thomas a relevé l'abondance et l'hétérogénéité des veuves fictionnelles dans les œuvres narratives du 18e siècle. Les lettres d'Adélaïde de Dammartin correspondent à cette description, puisqu'on y retrouve au moins 5 veuves qui toutes occupent distinctement leur état. Il va être question de 2 d'entre elles dans cette présentation, Adélaïde, donc l'épistolière, et Madame de Martigues. En dépit de leurs différences, toutes deux connaîtront le même sort. À la fin du roman, elles auront convolé en juste noce avec l'élu de leur cœur et contracté des unions que le lectorat est prié de croire heureux. La critique a déjà souligné, à juste titre, que bon nombre des romans de Riccoboni sont en contradiction avec leur propre dénouement. Celui des lettres d'Adélaïde de Dammartin a en effet de quoi surprendre, si on considère la véhémence de la critique du mariage à laquelle se sont précédemment livrées Mesdames de Sancerre et de Martigues. Toutes deux comparent en effet le mariage à l'esclavage. Ricoboni n'invente pas ce rapprochement, qui est courant dans les textes français au moins à partir du 17e siècle, mais elle ne se contente pas de reconduire ce lieu commun. Elle le met en scène et le pousse à son extension maximale à travers le destin d'un personnage secondaire, Zabeth, une jeune esclave convoitée par le fils de son maître. Arrêtons-nous un moment à l'histoire de ce personnage, qui met en relief un des enjeux fondamentaux du roman, soit l'usage que font les personnages féminins de leur liberté. Lorsqu'Adélaïde avait environ 13 ans, son oncle maternel, le comte d'Estelan, revint de la Martinique où il avait fait fortune, accompagné de son fils, d'une esclave qui le servait en qualité de femme de chambre, et des deux filles de celle-ci. Peu après son arrivée en France, d'Estelan fils s'enfuit avec l'aînée, Zabeth, dans le dessein de se marier avec elle. Cette proposition matrimoniale avait en effet de quoi convaincre la jeune femme. Dans l'Empire colonial français du 18e siècle, les esclaves étaient, au regard du droit laïque, des corps sans personnalité juridique. Comme le rappelle Jean-François Niort, l'esclave dans le Code noir reste un être humain juridiquement réifié à travers sa patrimonialité qui le rend apte à être vendu, acheté, loué ou hérité. Le mariage avec une personne libre permettait à l'esclave de s'affranchir et d'acquérir le statut juridique correspondant à l'état de mari ou d'épouse. Plusieurs des incapacités juridiques qui frappaient l'esclave s'appliquaient également à la femme mariée. Le statut de sous-personne juridique qui échoyait à l'épouse, comme je l'ai mentionné plus tôt, était néanmoins plus avantageux que celui de « chose qui est dans le commerce », une expression malheureusement utilisée au sujet des esclaves par le jurisconsulte Potier dans les années 1760. Grâce au projet matrimonial du cousin d'Adélaïde, Zabeth est placée dans une situation qui est comme l'image en négatif de celle de la veuve qui pense à se remarier. Tandis que la veuve qui se remarie perd le statut de personne juridique à part entière qu'elle avait acquis au décès de son mari, Zabeth, elle, en épousant le fils de son maître, accéderait à un statut juridique préférable à celui qu'elle avait avant son mariage. Bref, alors que les veuves ont beaucoup à perdre en se remariant, Zabeth, elle, gagnerait au change en épousant des seuls en fils. La suite du roman montre cependant qu'à l'instar d'Adélaïde et de Madame de Martigues, Zabeth n'a pas su prendre une décision matrimoniale contribuant à son émancipation. Plus d'une dizaine d'années après sa fuite, le jeune d'Estelan revient en France et entend se faire restituer l'héritage dont son père l'avait privé au profit d'Adélaïde pour le punir de sa fuite et de son mariage clandestin. On apprend alors que d'Estelan fils ne s'est finalement jamais marié avec Zabeth. Il était nécessaire que ce projet d'union échoue pour que Ricoboni puisse ménager une dernière péripétie menaçant les secondes noces d'Adélaïde et de M. de Montalais. Mais pour justifier cet échec, Ricoboni aurait pu imaginer un empêchement inspiré du droit ou de la jurisprudence de l'époque qui prohibait ou était en voie de prohiber, selon les territoires, les unions entre personnes noires et personnes blanches. Or, Ricoboni impute plutôt la non-réalisation de ce mariage à la volonté de Zabeth. Au lieu d'épouser son maître, elle a préféré se marier avec un homme de sa condition, ce qui impliquait qu'elle demeure dans l'état d'esclavage. Le roman interroge ainsi l'usage que font les femmes de la liberté dont elles disposent en matière de mariage. Avec le cas de Zabeth, cette question est portée à un degré de gravité autrement plus élevé que lorsqu'elle concerne le remariage des veuves. Le lieu commun comparant le mariage à l'esclavage est ainsi poussé à son extension maximale, comme je le disais, dans la mesure où le mariage choisi par Zabeth la confine à un esclavage réel, alors qu'une autre décision matrimoniale lui aurait permis de se sortir de cette condition et même de devenir comtesse. L'histoire de Zabeth fait donc ressortir l'incapacité des personnages féminins des lettres d'Adélaïde de Dammartin à prendre des décisions qui contribuent à leur émancipation. Dans le roman, cette incapacité apparaît systématique, parce que, tout comme Zabeth, Adélaïde et Madame de Martigues font de leur plein gré des choix matrimoniaux qui contribuent à leur assujettissement. Un tel constat invite à une réflexion sur la définition même de la liberté dont bénéficient ces personnages. Dans la suite de ma présentation, cette réflexion sera menée à l'aune du spinozisme, un système philosophique qui eut une influence prépondérante sur les Lumières françaises et européennes, comme l'ont montré Paul Vernière et Jonathan I. Israel. Dans le sillage de leurs travaux, Yves Citon évoque dans « L'envers de la liberté », un ouvrage publié en 2006, l'invention d'un imaginaire spinoziste dans la France des Lumières. Selon lui, les discours qui témoignent de cet imaginaire et qui ont contribué à l'instituer mérite d'être revisité pour déniaiser quelque peu nos visions dominantes de la liberté. Ces textes fourniront, pour les besoins de ma présentation, un cadre de référence permettant d'analyser le degré de liberté dont disposent les personnages féminins au moment de faire des choix matrimoniaux. Comme le relève Yves Citon, les discours sur la liberté qui clament ou réclament son triomphe dans le monde contemporain partagent une même série de postulats. Selon eux, je suis libre lorsque j'ai l'autorisation et ou les moyens de faire ce que je veux. Cette assise de la liberté sur la volonté paraît relever d'une telle évidence dans le monde qui nous entoure qu'elle constitue ce que nous pourrions appeler son endroit. Cet endroit part du principe que chaque individu humain est doté d'une capacité de décision qui fonde son identité morale et sa responsabilité. Cette capacité de décision produit des choix qui forment l'expression essentielle de notre liberté. En vertu de cette définition de l'endroit de la liberté, il serait possible de dire que les trois jeunes femmes des lettres d'Adélaïde de Dammartin sont libres. Zabeth épouse un autre esclave plutôt que de céder aux pressions du fils de son maître. Après avoir refusé bien des parties, Adélaïde se réjouit d'unir sa vie à celle de Montalais. Madame de Martigues signe son maudit contrat de mariage en regimbant, mais sans avoir subi de contraintes. Or, le roman paraît précisément à une époque où la France est traversée par un débat au sujet de l'envers de la liberté, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle les volontés et les désirs ne sont eux-mêmes pas libres. Cette querelle du libre-arbitre ou du serf-arbitre s'est tenue entre 1670 et 1790 autour de l'onde de choc produite par la publication des œuvres du philosophe hollandais Benedictus de Spinoza, qui commence en effet par nous dire, dans la première partie de l'Éthique, que nos volontés ne sont pas libres, mais conditionnées. À cette époque, c'est en effet le fatalisme de Spinoza qui retenait l'attention tant des adeptes que des réfutateurs de son système. Dans les textes des critiques de Spinoza comme dans ceux de ses partisans, la thèse moniste que défend ce philosophe et le fatalisme qui en découle furent poussés jusqu'à leurs dernières conséquences. Ricoboni fréquentait Diderot et le baron d'Holbach, deux philosophes qui étaient assez près du centre de la nébuleuse spinoziste des Lumières, selon Yves Citon. Elle a écrit les lettres d'Adélaïde de Dammartin pendant le troisième quart du 18e siècle, soit à l'époque où le spinozisme des Lumières trouva à la fois sa logique d'ensemble et ses formes de déploiement les plus suggestives. Même si le roman n'incline pas vers le débat d'idées, il est traversé par certaines des questions qui préoccupaient alors les sectateurs de Spinoza et leurs adversaires. En montrant plusieurs personnages féminins qui, en toute connaissance de cause, font des choix contraires à leurs intérêts, il participe à cette large réflexion sur l'envers de la liberté. Après avoir explicité quelques-uns des fondements de la pensée spinoziste et certaines de leurs implications, j'analyserai à l'aune de ceux-ci les décisions de Madame de Martigues et d'Adélaïde. Ce faisant, je mettrai au jour les réseaux d'interdépendance dans lesquels s'inscrivent ces jeunes femmes et les manières dont le roman donne à lire les conditionnements qui pèsent sur elles. Le fatalisme spinozien découle de la thèse moniste développée dans l'Éthique. Selon cette thèse, il n'existe qu'une seule substance, soit une seule chose qui est en soi et est conçue par soi, Dieu ou la nature. Tel qu'on le conçoit Spinoza, Dieu n'est pas distinct du monde comme le créateur l'est de sa création. À la fois créateur et création, il est la substance unique en laquelle tout existe, ce qui peut être interprété à la fois comme de l'athéisme ou du panthéisme. Tout ce qui nous entoure, les objets, les plantes, les animaux, mais aussi les humains, selon cette thèse, ne sont que les modes ou affections de cette substance. Les implications de cette thèse sont innombrables et ont donné lieu à de nombreux débats, mais j'en retiens pour l'instant seulement ce qui touche directement à la question du fatalisme. À l'époque, on reconnaissait généralement que la nature était régie par le principe de causalité, donc par l'enchaînement des effets et des causes. On pensait cependant que l'humain échappait à cette logique, parce qu'il était doté d'un libre arbitre lui permettant d'agir à son gré indépendamment des causes extérieures. En nous disant que tout ce qui existe, y compris les humains, est constitué d'une seule et même substance, la thèse moniste met fin à l'exception qu'on accordait à notre espèce. Comme l'explique Yves Citon, selon cette thèse, la sphère des choses humaines ne constitue pas un empire dans un empire échappant miraculeusement aux règles déterministes que l'on observe dans le reste de l'univers, mais constitue une simple partie de la nature. Il en résulte que la volonté humaine est, elle aussi, soumise au principe de causalité, comme l'indique l'article « Liberté morale » de l'Encyclopédie, je cite, « Spinoza et ses sectateurs disent que, Puisque tout effet présuppose une cause et que, de la même manière que tout mouvement qui arrive dans un corps lui est causé par l'impulsion d'un autre corps et le mouvement de ce second par l'impulsion d'un troisième, et ainsi chaque volition et chaque détermination de la volonté de l'homme doit nécessairement être produite par quelque cause extérieure, et celle-ci par une troisième, d'où il conclut que la liberté de la volonté n'est qu'une chimère. Le monisme spinozien est ainsi strictement déterministe, c'est-à-dire qu'il implique que chaque événement est nécessairement suscité par les événements et les conditions qu'il précède, ainsi que par les lois de la nature. Selon Yves Citon, dire que tout est lié faisait sans doute figure d'un cliché quasiment universellement admis à l'époque. La thèse moniste débouche ainsi sur l'idée d'une interdépendance généralisée. La tradition spinoziste appliqua ce principe à tous les niveaux d'organisation de la matière. Et le cerveau, et la société, et l'univers dans son ensemble apparaissent aux yeux de cette tradition comme des réseaux d'interdépendance, comme des concaténations de conditionnement mutuel. Une telle manière de concevoir la société permet d'appréhender l'ambivalence qui caractérisait le mariage dans la France du 18e siècle d'une manière nuancée, comme nous invitent à le faire les lettres d'Adélaïde de Dammartin. À cette époque, coexistaient deux types de mariages. Il y avait d'une part le mariage traditionnel, qui était un dispositif d'alliance manifestant l'interdépendance objective et subie qui emporte le sort de l'individu sans égard à ses désirs propres. D'autre part, il y avait le mariage basé sur la sympathie des cœurs qui exprimait l'espoir d'une interdépendance choisie et respectueuse de la subjectivité des individus. Ce deuxième type de mariage gagnait à l'époque en popularité. Lorsque les deux jeunes veuves des lettres d'Adélaïde de Dammartin considèrent l'idée de se remarier, elles aspirent évidemment à contracter un mariage d'inclination plutôt qu'un mariage traditionnel, une espérance que devrait autoriser la liberté procurée par leur veuvage. Or, dès le début du roman, il est établi que cette liberté ne va pas de soi et que d'autres facteurs que l'inclination entrent en ligne de compte lorsqu'une veuve se remarie. Le roman de Riccoboni divulgue l'ensemble causal et l'entrelacs d'intérêts qui pèsent sur les décisions de chacune. Il fait apparaître le réseau d'interdépendance au cœur duquel se trouvent les jeunes veuves. C'est, entre autres choses, ce que montrera l'analyse du remariage de Madame de Martigues et de l'épistolière, deux personnages qui se montrent plutôt réfractaires à l'idée de convoler en seconde noce. Dans la deuxième lettre, Adélaïde rapporte une hypothèse émise par le comte de Pienne. « Si une de ces trois charmantes veuves, dit-il, rentrait sous le joug, les deux autres suivraient son exemple. Madame de Martigues se déciderait enfin. J'obtiendrais son cœur et sa main. » En plus de postuler l'existence de liens d'interdépendance entre les trois amis, je vais y revenir, cette phrase révèle les tensions qui caractérisaient les représentations du mariage proposées dans l'imaginaire social de l'époque. L'allusion au cœur, qui indique la possibilité que l'amour mène au mariage, est prise en étau entre deux images, celle du joug et de la main, qui évoquent tant le caractère contraignant de l'union matrimoniale que ses dimensions légales et économiques. Avant de m'intéresser aux facteurs qui contribuent au remariage de Madame de Martigues, je vais exposer les raisons qui expliquent sa réticence à l'idée de se remarier. Les récriminations de Madame de Martigues contre le mariage sont lucides et argumentées. Elle critique les dispositions du droit matrimonial français qui obligent l'épouse à obéir à son conjoint. Pour ce personnage, le cœur ne semble pas peser bien lourd dans la balance comparativement au risque de se trouver de nouveau à la merci d'un homme. Comment me résoudre à donner à un homme le droit de m'imposer des lois? Je n'ai point oublié M. de Martigues. C'est ton, sa hauteur. C'est, il le faut, madame. Je le désire. Cela convient. Je le veux. Cela sera. Et cela était. Je préfère le comte de Pienne à tous les hommes du monde. Je l'aime, oui, en vérité. Mais l'espèce de sentiment qu'il m'inspire ne me donne pas la moindre envie d'être à lui. N'affaiblit point du tout la répugnance qui m'éloigne d'un lien assujettissant. Comme l'explique Adélaïde, ce n'est pas la légèreté dont on accuse Madame de Martigues qui l'éloigne du remariage, mais bien sa propre expérience qui la rend si difficile à persuader. Toutes deux éclairées par le malheur connu dans leur première union, Adélaïde et Madame de Martigues chérissent la liberté procurée par leur veuvage. « Je ne veux pas changer d'état, » écrit Adélaïde, « je le veux moins que jamais. Au fond, le mien pourrait être si tranquille. Mon goût, ma raison m'y attache. » En vertu de la conception de la raison qui prévalait alors, cette volonté de rester veuve peut effectivement être qualifiée de rationnelle. Ainsi que le rappelle Yves Citon, La raison se définissait essentiellement comme la connaissance par les causes, approchée sous l'angle de la productivité. C'est-à-dire qu'on s'intéressait à l'anticipation des effets que pouvait avoir un phénomène, plutôt qu'à l'explication de ce qui l'avait causé. Cela constitue un changement de perspective par rapport à la manière traditionnelle de concevoir la causalité, dans laquelle on remontait plutôt des effets présents vers les causes passées. La définition de la raison que donne le baron d'Holbach est symptomatique de ce changement de perspective qui eut lieu entre 1650 et 1800. La faculté que nous avons de faire des expériences, de nous les rappeler, de pressentir les effets afin d'écarter ceux qui peuvent nous nuire ou de nous procurer ceux qui sont utiles à la conservation de notre être et à la félicité, seul but de toutes nos actions, soit corporelles, soit mentales, constitue ce qu'en un mot, on désigne sous le nom de raison. À la lumière de cette conception de la raison, une décision rationnelle peut être définie comme une décision dont nos expériences passées nous indiquent qu'elle aura l'effet que nous escomptons. Comme le droit matrimonial, depuis la mort de Messieurs de Martigues et de Sancerre, n'a pas été modifié de manière à émanciper l'épouse de la tutelle du mari ou de manière à permettre le divorce, la même cause, le mariage, aurait les mêmes effets délétères qu'auparavant sur Adélaïde et sur Madame de Martigues. Elles savent que si elles se remariaient, elles seraient de nouveau assujetties aux volontés de leurs époux et qu'elles n'en pourraient pas divorcer. En demeurant veuves, elles agissent donc conformément à la raison. Ce faisant, elles adoptent une conduite qu'on pourrait qualifier de libre, en fonction de la conception spinoziste de la liberté qu'il convient à présent d'expliciter. Malgré le déterminisme qu'il caractérise, le spinozisme ne récuse pas totalement l'idée de liberté. Il en propose plutôt une redéfinition fondée sur l'entendement. Selon les spinozistes, seuls les êtres humains seraient dotés d'une nature ou d'une essence capable d'intelligence rationnelle. Cette faculté serait ce qui leur permettrait d'agir, suivant la définition spinozienne de ce verbe, laquelle stipule qu'un être n'agit véritablement que dans la mesure où sa nature propre permet de rendre compte de son comportement. Si la nature propre de l'être humain consiste à pouvoir se comporter en fonction de l'intellection des rapports de causalité, nous ne pouvons prétendre agir que dans la mesure où notre comportement est dicté par l'intellection des causes. De telles actions, sans être absolument libres au sens d'inconditionné, participent toutefois d'une certaine liberté. Ainsi que l'explique Yves Citon, être guidé par la raison, c'est être le mieux en mesure à la fois de comprendre ce qu'il est dans mon intérêt réel d'accomplir et de faire ce qu'il faut pour que mon action produise les effets désirés. Un tel processus est à recommencer à chaque nouvelle décision. Cette redéfinition a donc la particularité de présenter la liberté non pas comme un état ou privilège dont on pourrait disposer à un moment donné, mais plutôt comme un processus infini d'émancipation. À ce sujet-là, Yves Citon propose de parler plutôt de libération que de liberté, puisqu'il ne s'agit pas d'un état, mais d'un processus. Dans les lettres d'Adélaïde de Dammartin, la situation d'Adélaïde et de Madame de Martigues montre bien l'idée selon laquelle la liberté n'est jamais acquise. Pendant une bonne part du roman, elles sont assaillies d'injonctions à convoler en seconde noce. Ce n'est qu'après y avoir résisté pendant longtemps qu'elles se résolvent à se remarier. J'aimerais à présent examiner ce qui finit par convaincre Madame de Martigues de rentrer sous le joug après avoir si âprement défendu sa liberté, afin de voir si cette décision peut être finalement considérée comme libre. En dépit de sa lucidité au sujet de la condition des femmes mariées, Madame de Martigues n'attend pas, pour épouser M. de Pienne, qu'un changement légal eût amélioré cette condition. Elle n'enjoint pas non plus son prétendant à signer un contrat qui, palliant l'iniquité de la loi, lui permettrait de se soustraire à l'autorité maritale. Non, la cause de son remariage est beaucoup moins rationnelle que ça. Madame de Martigues calque ses choix matrimoniaux sur ceux de ses amis. Ses paroles et ses actions montrent qu'elle se conduit finalement selon la prédiction du comte de Pienne. Savez-vous bien qu'il est des moments où mon bon génie m'abandonne, où je suis tentée, où l'exemple de Madame de Mirande, dont le mariage doit bientôt avoir lieu, pourrait... Ah, la mauvaise pensée qui me vient là! Nous ferons, je ne promets rien. J'ai besoin d'un exemple plus frappant encore, de celui de Madame de Sancerre. Ces mots ne sont pas écrits à la légère. À peine Adélaïde et Montalais se sont-ils promis l'un à l'autre qu'ils prennent Madame de Martigues par surprise et lui font signer le maudit contrat en vertu duquel elle accompagnera Madame de Sancerre à l'hôtel. Une telle périphrase est révélatrice de l'ascendant d'Adélaïde sur son amie. Celui-ci est encore souligné lorsque le retour du jeune d'Estelan met en péril le remariage d'Adélaïde. Madame de Martigues m'impatiente. Elle jure, elle proteste de ne point se marier si je perds mon procès. Elle veut vivre avec moi, comme moi, tout partager avec moi, se plaint l'épistolière. En faisant ainsi dépendre ses décisions de celle d'Adélaïde, Madame de Martigues valide le lien causal qui sous-tend la proposition du comte de Pienne, selon laquelle la décision de l'une des trois amies de contracter une nouvelle union aurait pour conséquence d'amener les autres à faire pareil. Cela a quelque chose d'étonnant, d'autant plus que Riccoboni place dans la bouche du comte de Pienne une métaphore rentrée sous le joug qui évoque l'asservissement bien réel que peuvent connaître les épouses au sein de l'institution matrimoniale. Comme l'a déjà souligné Ruth P. Thomas, le comte peut prendre cette expression à la légère, puisque le joug du mariage ne pesait pas très lourdement sur les épaules des maris. On ne peut toutefois pas s'attendre à une telle désinvolture de la part de veuves qui ont connu des expériences désastreuses dans leur premier mariage. De leur point de vue, il apparaît curieux que la référence au joug, qui présente le mariage comme un mâle, n'empêche pas M. de Pienne d'avancer l'idée selon laquelle les secondes noces de l'une des trois amies persuaderaient les deux autres de se remarier aussi. Son hypothèse aurait paru plus convaincante à la suite d'une évocation méliorative du mariage. En effet, il tombe sous le sens commun, qui nous donne un sentiment intime parfaitement évitant de notre liberté, qu'un agent tende à imiter les comportements qui lui sont présentés comme désirables et qu'à l'inverse, il essaie d'éviter ceux qui lui sont présentés comme nuisibles. Il est donc possible d'avancer que la cohérence de l'hypothèse du comte de Pienne repose sur un système de pensée qui va à l'encontre du sens commun en remettant en question l'existence du libre arbitre, donc le spinozisme. Dans la pensée spinozienne, comme j'ai déjà expliqué, l'être humain n'est qu'un mode de l'une substance, ce qui fait en sorte qu'il n'échappe pas aux règles déterministes qui régissent la nature. Comme le résume Yves Citon, concevoir l'humain comme relevant d'un monde de mode, c'est intégrer l'individu, apparemment limité aux frontières de son corps biologique, dans une entité collective dont les résonances internes et les mouvements ondulatoires déterminent son comportement. En faisant de moi un mode, Spinoza affirme que mon être et mes actions ne peuvent s'expliquer à partir de moi-même, mais seulement par référence à autre chose. Autrement dit, il faut chercher la source des actes d'une personne ailleurs que dans sa pure volonté. La proposition du comte de Pienne témoigne d'une telle conception de l'humain. Selon lui, le remariage de deux des trois jeunes veuves dépendrait d'une cause extérieure à elle-même, soit le remariage de la troisième d'entre elles. M. de Pienne fait fi de la différence des caractères des trois jeunes femmes et de l'aversion de certaines d'entre elles pour le mariage. Sa proposition leur prête un comportement uniforme et abolit leur individualité. La pensée du prétendant de Madame de Martigues, en cela aussi, rejoint celle des spinozistes. Comme l'indique Yves Citon, l'inséparabilité que le spinozisme nous invite à reconnaître entre les modes dont se forme la masse universelle conduit non seulement à un ébranlement de mon identité, mais à l'abolition de toute distinction entre moi et autrui. Quoi de plus clairvoyant et de plus suggestif, pour peu qu'on prenne la mesure du rôle que jouent les phénomènes d'interconditionnement, d'imitation et de grégarisme dans les sociétés humaines? Madame de Martigues affirme à quelques reprises le caractère décisif que revêtent pour elle les choix d'Adélaïde et agit conformément à la prédiction de son prétendant. Ses actions en matière de mariage semblent donc tenir à un effet d'imitation tels ceux dont le spinozisme explique l'existence. Avec le cas de ce personnage, le roman met en évidence que le mariage d'amour, même s'il s'épanouit hors de l'économie des richesses et des statuts régis par les familles, n'est pas conclu dans un vide relationnel. Il est contracté entre des individus inscrits dans des réseaux de relations qui, pour être subjectivement choisis, n'en influent pas moins sur leurs décisions. Si la critique a souvent remarqué le rôle salutaire de l'amitié féminine dans les romans de Riccoboni, force est de reconnaître ici qu'un effet d'imitation délétère s'exerce entre les personnages féminins. Les malheurs que les deux veuves ont connus dans leur première union les ont certes rapprochés, mais ne les amène pas à une solidarité qui les éclairerait sur les dangers encourus par quiconque devient une épouse. Tout en rejetant pendant une bonne partie du roman l'idée de se remarier elle-même, elles s'exhortent mutuellement à convoler en seconde noce et contribuent même à faire advenir le mariage l'une de l'autre. Le rôle que joue Madame de Martigues dans le remariage d'Adélaïde est d'ailleurs souvent mis en évidence dans le roman. À la toute fin de la correspondance, Madame de Martigues prend la plume pour vanter une dernière fois la part qui lui revient dans le succès des projets matrimoniaux de son ami. À présent que mes moyens ont si bien réussi, voilà monsieur et madame de Termes qui les examinent gravement. Monsieur de Montalais et madame de Sancerre ne peuvent décider si ces moyens étaient bons ou mauvais. En vérité, personne ici n'a le sens commun. Je ne vois que moi de raisonnable. Au regard des réticences que Madame de Martigues a manifestées envers les secondes noces depuis le début de l'œuvre, il est contradictoire, comme l'a souligné Mireille Bissière, qu'elle contribue à faire advenir le remariage d'Adélaïde. Si on ajoute à cela le fait que la décision de redevenir une épouse ne peut être qualifiée de rationnelle en fonction de la définition de la raison qui prévalait alors, il semble étonnant que Madame de Martigues se targue d'être raisonnable parce qu'elle a réussi à unir Adélaïde et Montalais. La difficulté que présente cette affirmation vient du fait que le terme « raisonnable » revêtait à l'époque un sens différent selon qu'il était appliqué à un homme ou à une femme. C'est comme le joug un peu dans le fond. Le joug, il pèse différemment sur l'homme et la femme, mais le terme « raisonnable » ne s'applique pas de la même façon à l'un et à l'autre. Donc l'encyclopédie montre clairement cette distinction. Raisonnable se dit des personnes et des choses. Un homme raisonnable ou dont la conduite est conforme à la raison. Une action raisonnable ou dont le motif est conforme à la raison. Ce mot a une acception un peu détournée lorsqu'il est appliqué à une femme. Une femme raisonnable est celle qui ne se laisse point emporter à l'esprit régnant de la galanterie. À la lumière de cette définition, il apparaît que Madame de Martigues fait ici appel à une acception genrée de la raison qui coïncide avec une morale voulant que les femmes agissent de manière à préserver leur réputation. Cette raison, on l'aura compris, n'est pas la même que celle qu'invoquaient les veuves pour expliquer leur éloignement envers le remariage. Un tel constat appuie l'hypothèse selon laquelle ces personnages n'agissent pas librement, dans la mesure où la raison qu'ils ont fait valoir tout au long du roman n'est finalement pas celle qui dicte leur conduite. L'existence de ces acceptions genrées de la raison va de pair avec l'émergence de l'idéologie naturaliste. Cette idéologie, explique Lise Lotte-Steinbrügge, était légitimée par des principes issus des Lumières, notamment la nature et l'utilité, qui voulaient qu'on accorde une valeur particulière à la fonction biologique propre aux femmes, la reproduction. Le développement du sensualisme, la valorisation du rôle maternel et les encouragements démographiques prodigués par les physiocrates contribuèrent à produire une conception différenciée des aptitudes de chaque sexe. L'article « Femme morale » de l'encyclopédie est très révélateur à cet égard. C'est une autre perle. Les femmes ne diffèrent pas moins des hommes par le cœur et par l'esprit que par la taille et par la figure. Si cette même délicatesse d'organe qui rend l'imagination des femmes plus vive rend leur esprit moins capable d'attention, on peut dire qu'elles aperçoivent plus vite, peuvent voir aussi bien, regardent moins longtemps. La nature a mis d'un côté la force et la majesté, le courage et la raison, de l'autre les grâces et la beauté, la finesse et le sentiment. L'épistolaire est une représentante du modèle féminin proposé dans les discours moraux, physiologiques et médicaux caractéristiques de l'idéologie naturaliste. En effet, à la différence de Madame de Martigues, Adélaïde est la proie d'impérieux mouvements intérieurs qui la poussent vers son prétendant et qui vont à l'encontre de la conduite que lui dicte sa raison. Elle est soumise à l'emprise de son imagination et de ses sentiments qui l'affectent jusque dans son corps. L'héroïne se plaint régulièrement de maux physiques et mentaux, comme on peut le lire dans la 10e lettre. Depuis un peu de temps, je ne suis pas dans mon état naturel. J'ai des vapeurs, peut-être. C'est un mal sans douleur, n'est-ce pas? L'imagination se frappe, le cœur palpite, on ne sait ce que l'on désire, on veut, on ne veut pas. Rien ne plaît, tout fatigue. Désordre et trouble du pouls, sombres pensées, état de malaise dont la personne souffrante ignore la cause. Adélaïde éprouve de nombreux symptômes que Pascal Noiset associe à la maladie d'amour. Quant aux vapeurs qui affectent l'héroïne, le lectorat a pu les interpréter comme un symptôme de son veuvage, voire comme un signe qu'elle devrait se remarier au plus vite afin de recouvrer la santé, comme le prescrivaient les médecins de l'époque. Tous les praticiens conviennent que les différents symptômes de vapeurs qui attaquent les fées ou les veuves sont une suite de la privation du mariage. Les médecins sont souvent obligés de faire marier ces malades, et le succès du remède constate la bonté du conseil, indique l'encyclopédie. Ainsi, quel que soit le diagnostic, maladie d'amour ou vapeur du veuvage, le remède est le même, le mariage. Les souffrances physiques et psychologiques qu'éprouvent celles qui, comme Adélaïde, vivent hors de cette norme sociale, ne semblent guère leur laisser d'autre choix que de s'y plier, comme en témoigne la fin du roman. Parce qu'elle imite l'héroïne, Madame de Martigues adopte le comportement qui est attendu du type féminin caractéristique de l'idéologie naturaliste, malgré le fait qu'elle-même n'y correspond pas. Ça met en évidence la force de cette idéologie et des contraintes sociales qui pesaient alors sur les femmes. À cet égard, les dernières lignes du roman sont significatives. Après que Madame de Martigues a évoqué la conception genrée de la raison qui la fait coïncider avec la morale, un narrateur omniscient, sorti d'on ne sait où, nous apprend que, malgré la différence de leur caractère, ces deux aimables femmes, Adélaïde et Madame de Martigues, rendirent leur mari également heureux. Parce que vraiment, c'est ça qui nous inquiétait. À elle seule, cette formulation peut jeter un doute sur le bonheur que trouveront Adélaïde et Madame de Martigues dans le mariage. Ce qui est d'autant plus vrai si on considère l'acception sexuelle que peut revêtir l'expression « rendre heureux ». L'épanouissement féminin au sein du mariage apparaît encore plus douteux si on considère le destin de deux personnages secondaires, Zabeth et Madame de Montalais. L'œuvre ne précise pas si l'union que Zabeth a contractée avec un homme de sa condition a su faire son bonheur. Mais elle mentionne que ce mariage fut de courte durée. Au moment où le cousin d'Adélaïde rentre en France, la jeune esclave n'est plus. Le destin de Zabeth pose un problème au regard du script romanesque que suivaient habituellement les personnages féminins avant le 20e siècle, lequel est ainsi décrit par Rachel Blau Duplessis. Once upon a time, the end, the rightful end of women in novels was social, successful courtship, marriage, or judgmental of her sexual and social failure, death. These are both resolutions of romance. Il est possible de considérer qu'en trahissant son maître, Zabeth a commis une faute que vient sanctionner sa mort prématurée, conformément à la tradition romanesque évoquée par Rachel Blau Duplessis. Or, la jeune femme, bien qu'elle ait suivi son cœur, n'a pas adopté de comportement sexuel jugé transgressif. Même si elle désobéit à son maître, elle se comporte ultimement d'une manière qui préserve l'ordre social. D'abord, elle s'est refusée au désir de son maître au nom des maximes européennes dans lesquelles elle a été élevée, exigeant que le mariage précède la consommation de leur union. Ensuite, elle a contracté un mariage endogamique, au lieu d'épouser un homme blanc, noble de surcroît, dans une société où les unions entre personnes blanches et personnes noires étaient en voie d'être interdites et où les unions entre personnes de conditions inégales étaient généralement réprouvées. Si on tient compte de ces circonstances, il apparaît que le destin de Zabeth brouille le script romanesque précédemment évoqué. Comme si elle avait jugé l'esclavage réel préférable à l'esclavage métaphorique que subissent les femmes prises dans des mariages sans amour, Zabeth a refusé l'union avantageuse que lui proposait son maître pour épouser un homme de sa condition. Quelques années après ces événements, elle meurt. Ce destin conjugue les issues euphoriques et dysphoriques évoquées par Rachel Blau Duplessis, ce qui laisse penser que le roman ne célèbre pas la décision socialement acceptable prise par Zabeth. Le sort réservé à Madame de Montalais, un personnage qui incarne à merveille l'idéal naturaliste, va dans le même sens. Malgré les avertissements de son médecin, elle met sa vie en péril pour assurer une descendance à son mari. Les comportements par lesquels elle se conforme à l'idéologie naturaliste, donc le mépris de ses propres intérêts et la procréation, sont ceux-là même qui conduisent à sa mort, qui la conduisent à sa mort. Son sacrifice reste d'ailleurs vain, parce qu'aucun de ses enfants ne lui survit. Le destin de Zabeth et de Madame de Montalais montre que le roman est plus pessimiste qu'il n'y paraît au sujet du mariage d'amour et de l'idéologie qui pousse les femmes à contracter de telles unions. De là à les déclarer mortifères, il n'y a qu'un pas que l'œuvre invite presque à franchir. En planifiant son mariage avec Montalais, Adélaïde songe déjà à lui préparer un veuvage financièrement confortable. Quant à Madame de Martigues, elle demande à M. de Nancy de lui offrir un compliment de condoléances sur son mariage prochain avec le comte de Pienne. En dépit de sa fin de conte de fées, il apparaît que l'œuvre présente bel et bien le mariage comme un contrat maudit, dont les conséquences, pour les femmes, ne peuvent que s'avérer funestes.